France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Donald Trump veut voir l'avènement d'une nouvelle ère au Moyen-Orient avec la normalisation des relations entre Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. D'autres pays arabes suivront, estime Washington. Les autres titres, Agnès.
La SNCF lance la rentrée sociale avec un premier mouvement de grève à partir de 20h ce soir, sans grande conséquence sur le trafic. Autre débat de cette rentrée, comment doivent s'habiller les filles au collège et au lycée. L'effrayant col de la Loz au menu de la 17e étape du Tour de France. Et puis un film pour célébrer l'amour et la fantaisie.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Oui, elles font partie de nos actrices les plus charismatiques. On a grandi, Nicolas, vous, moi et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices avec elles. Elles sont réunies dans un film OVNI, sorte d'hommage délirant au cinéma, Lux Eterna, signé Gaspard Noé. On est très heureux de recevoir en direct à 7h50 Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle.
À tout à l'heure, heureux et impatient, à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Vos questions dès maintenant, le standard.
France
Inter. Le standard est ouvert.
Les sirènes ont de nouveau retenti tôt ce matin dans les localités israéliennes proches de la bande de Gaza pour signaler des tirs de roquettes depuis Gaza. L'armée israélienne a aussitôt répliqué avec des frappes sur l'enclave palestinienne. Une montée en tension quelques heures après la signature à Washington d'un accord normalisant les relations entre d'un côté Israël et de l'autre les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Un accord qui marque donc le début d'une aube nouvelle pour le Moyen-Orient, a dit Donald Trump, qui entend poursuivre ses objectifs dans la région. Correspondance à Jérusalem, Frédéric Mettezou.
Cinq ou six pays arabes prêts à normaliser leurs relations avec Israël, Donald Trump voit grand. Les experts israéliens en envisagent trois ou quatre, Oman, le Soudan et le Maroc, et à plus long terme, l'Arabie Saoudite. Ce serait alors une véritable bascule diplomatique avec la constitution d'un axe anti-Téhéran et économique avec des marchés prometteurs pour l'économie israélienne. Benjamin Netanyahou ou le directeur du Mossad ont déjà pris personnellement contact avec les officiels de ces pays, parfois éloignés d'Israël. En revanche, hier, le Premier ministre israélien n'a pas mentionné ses plus proches voisins, les Palestiniens. Cette paix va finir par inclure d'autres États arabes, explique Netanyahou, et l'ultime étape peut être la fin du conflit israélo-arabe. Mais paradoxalement, ses nouveaux amis pourraient l'obliger à rouvrir ce dossier israélo-palestinien. Hier, le ministre émirati des Affaires étrangères a remercié Netanyahou d'avoir stoppé l'annexion de territoires palestiniens et celui de Bahreïn en appelle à une solution à deux États. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Il n'y aura aucune paix sans la fin de l'occupation israélienne, a d'ailleurs réagi le président palestinien Mahmoud Abbas. Quelques centaines de Palestiniens ont également manifesté hier soir dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.
Il est 7h03 en France, Agnès. Le premier mouvement de grève de la rentrée débute ce soir à 20h.
Et c'est la SNCF qui ouvre le bal de la mobilisation lancée par la CGT, Solidaire, la FSU et les organisations jeunesse. Les perturbations qui débutent donc ce soir jusqu'à vendredi matin devrait rester très limité avec un trafic quasi normal demain à la SNCF comme à la RATP. Mais les cheminots comptent bien faire entendre leur voix pour dénoncer notamment les incohérences du plan de relance du gouvernement. Hélène Filly.
Sur les 11 milliards d'euros dédiés au transport dans le plan de relance, 4 milliards 700 millions sont consacrés aux ferroviaires. De l'argent certes, mais pas de stratégie, regrette Laurent Brun à la tête de la CGT cheminots.
Est-ce que c'est juste de la politique de la demande ? On balance de l'eau dans le sable ou au contraire, on construit une politique des transports avec des moyens, des objectifs. Et dans ce cas-là, on serait dans un vrai plan de relance.
Un manque de stratégie, dénonce la CGT, par exemple sur la promesse de relancer les trains de nuit.
Le matériel, il est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Il faut du matériel neuf. Pour fabriquer du matériel neuf, il faut 3 ou 4 ans. Le deuxième sujet, c'est que si on veut faire redémarrer des trains, il faut faire en sorte que SNCF Réseau n'interrompe pas la circulation pour des travaux massifs sur les lignes la nuit. Aujourd'hui, il n'y a pas le début d'une réflexion sur ces sujets-là. Il y a juste une commande politique qui est l'année prochaine, on veut qu'il y ait une ligne de train de nuit qui rouvre.
Pour ce qui est du fret, La CGT se félicite de voir les péages baisser, mais estime qu'il faudrait faire plus pour basculer le transport de marchandises de la route au ferré. Fabrice Michaud est le secrétaire général de la Fédération Transport.
C'est pour ça qu'avec les cheminots, on travaille sur une complémentarité des transports. On associe également le transport fluvial, parce qu'il y a certaines denrées qui pourraient être transportées par... parce qu'on a un réseau en France fluvial qui est très développé.
La CGT prépare un contre-plan de relance détaillé pour le fret qu'elle présentera la semaine prochaine.
Et arrêtons-nous justement sur notre façon de nous déplacer. En ville, 40% des trajets quotidiens en voiture font moins de 3 km. À la campagne où les transports en commun sont moins nombreux, la voiture apparaît souvent comme indispensable. Le village de Bailleul-sur-Thérain, près de Beauvais, dans l'Oise, veut inciter les parents à ne plus prendre la voiture pour déposer leur enfant à l'école. La municipalité lance donc un plan de déplacement scolaire, un outil encore peu utilisé en France. Reportage signé Sandy Dauphin.
La commune de Bailleul-sur-Thérain, 2300 habitants, veut changer les habitudes. Beaucoup d'enfants viennent à l'école en voiture, même quand ils habitent à côté.
Nous, on va en voiture. On habite à un kilomètre, j'habite pour à peu près.
Je ne serai pas mes enfants venir en vélo, parce que ça me fait peur.
La mairie va distribuer un questionnaire aux parents sur leurs habitudes de déplacement, cartographier leur trajet domicile-école. Une association de promotion du vélo est chargée de sensibiliser, former et proposer des solutions concrètes. Antoine Boroc de l'association Beauvélo.
L'idée, c'est de se doter vraiment de données concrètes sur les habitudes de déplacement en fait, des parents pour voir qui pourrait éventuellement venir à vélo, comment on pourrait organiser du ramassage pédestre mais groupé.
Avec ce plan de déplacement scolaire, l'objectif de la maire PS de Bailleul-sur-Thérain et d'amener au moins 20% des parents à se déplacer autrement qu'en voiture, Béatrice Lejeune.
Trop d'enfants viennent en voiture. Là où on va nous dire qu'il faut faire des aménagements, il faut créer les conditions pour que nos enfants viennent en sécurité, nous ferons les équipements qui permettront ces déplacements en toute sécurité. Il faut qu'on aille au bout de la démarche pour faire la démonstration que même en milieu rural, on peut avoir et offrir les mêmes mobilités que l'on soit urbain ou rural.
Ce plan de déplacement scolaire est financé par les grands énergéticiens sur le principe du pollueur-payeur, programme national baptisé Mobi.
Et quant au transport aérien, la Convention citoyenne pour le climat entend plaider ce matin lors d'une réunion au ministère de la Transition écologique pour une taxe plus chère sur les billets d'avion. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. La liste des établissements touchés par l'épidémie de Covid-19 continue de s'allonger. 127 étudiants de l'INSA à Toulouse ont contracté le virus lors de soirées étudiantes à l'extérieur de l'établissement, précise la direction. Résultat des cours en visio durant 15 jours. 15 jours de cours à distance également pour les 2e et 3e année en médecine à l'université de Montpellier après la découverte d'une soixantaine de cas positifs. Près de 8000 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les admissions à l'hôpital et en réanimation augmentent aussi. 752 malades sont actuellement en réa et 37 décès ont été enregistrés hier.
Il est 7h08, Agnès, tenue correcte exigée à l'entrée des collèges et des lycées.
Oui, mais qu'est-ce qu'une tenue correcte? Le débat fait rage sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Plusieurs jeunes filles se sont vues interdire l'accès en cours en raison de t-shirts dévoilant le nombril, des crop tops ou de jupes jugées trop courtes. Un mouvement a été lancé le 14 septembre par des adolescentes et des adolescents qui réclament le droit de s'habiller comme bon leur semble. Reportage à Paris de Sarah Calaman.
Un jour, crop top, le lendemain, robe à bretelles. Pour Ibadi, élève de première dans le quartier Montparnasse à Paris, le mouvement du 14 septembre, ce sera désormais tous les jours.
Quitte à me faire virer, en fait, c'est pas grave. Je veux vraiment continuer le mouvement parce que c'est grave et surtout avec cette chaleur, c'est pas possible. On ne peut pas venir en jean et en manches longues.
Son amie Ève marque le coup avec une robe. Elle n'a pas rencontré de problème avec la direction du lycée, mais a essuyé quelques remarques stigmatisantes.
Dès mon arrivée au lycée, on m'a dit « Demain, si c'est possible que tu te couvres un peu plus, ce serait bien. »
Personnellement, je me laisserai pas faire par rapport à ces remarques, que ça soit dans la rue, au lycée, dans un café. Je trouve ça juste pas correct qu'on me regarde parce que j'ai mis une robe qui m'arrive au-dessus du genou, quoi.
Des remarques dans la rue, au lycée, les deux jeunes filles ne sont pas des cas isolés. Le syndicat lycéen UNL et le collectif Nous Toutes soutiennent le mouvement et lancent un questionnaire pour recueillir des témoignages. En 24 heures, Mathieu Devlanin, qui est président de l'UNL, a reçu 40 réponses.
Il y a un vrai mal-être chez les lycéens en ce moment, chez les lycéennes, parce qu'on est victime de discrimination. Nous, c'est pas à nous de changer notre tenue, c'est aux mentalités de changer.
Prochaine étape, une pétition pour permettre aux lycéennes de s'exprimer. À terme, le syndicat voudrait pouvoir participer aussi à l'écriture des règlements intérieurs pour définir une fois pour toutes ce qu'est la tenue correcte exigée au lycée.
Un reportage de Sarah Calamand. Stop à la publicité pour la malbouffe destinée aux enfants. C'est l'appel lancé ce matin par l'association UFC Que Choisir qui constate l'échec des politiques menées jusqu'ici. Dans les années 60, 3% des enfants souffraient d'obésité ou de surpoids. Ils sont aujourd'hui 17%. Et selon l'association, 9 pubs sur 10 destinées aux plus jeunes vantent un aliment trop gras, trop sucré ou trop salé. C'est l'étape de montagne de ce Tour de France. 170 km aujourd'hui entre Grenoble et le col de la Loze, sur les hauteurs de Méribel. Une montée inédite qui fait beaucoup parler au sein du peloton. Nicolas Perronnet.
Jusqu'à Méribel, tout va bien. C'est après, une fois passé l'Altiport, que les choses se compliquent. Nance Peters en sait quelque chose. Le grimpeur de l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale a reconnu le monstre plusieurs fois.
C'est vraiment une montée horrible et on a du mal à trouver le sens de cette montée-là. Au-delà de la 20e place, c'est une cyclo-sportive derrière. On se bat avec son vélo.
Du cyclisme spectacle sur une piste pour dameuses, un ruban bitumé il y a 2 ans pour l'occasion, un col artificiel trop dur, murmurent certains dans le peloton. Pas le responsable du tracé, Thierry Gouvenou.
Il faut être hyper léger, hyper puncheur, mais je pense que cette montée est faite pour entrer dans la légende du Tour de France.
Par ses mensurations, elle y est déjà, avec ce final entre les pistes de ski au milieu des télésièges, qui multiplie les passages à près de 20% à plus de 2000 mètres d'altitude.
Non, il ne faut pas avoir peur.
Comme beaucoup, Julian Alaphilippe va s'essayer sur de telles pentes pendant 7 km et surtout très irrégulière.
Bon, c'est inédit, hein. Je n'ai pas souvenir d'avoir monté quelque chose d'aussi long, d'aussi dur. Donc ouais, ça va être spécial. Ouais.
On en oublierait presque qu'avant d'attaquer la Loze, le peloton aura déjà gravi la Madeleine, elle aussi classée hors catégorie.
Voilà, hier c'est l'Allemand Kama qui s'est imposé en solitaire à Villard-de-Lans. Le Slovène Roglic est toujours maillot jaune. Le premier Français Guillaume Martin est 11e à plus de 6 minutes. Une soirée chargée pour le PSG qui reçoit Metz au Parc des Princes au moment où la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle se penchera sur les incidents lors du match PSG-OM. Accusations de propos racistes, gifles, crachats. L'entraîneur du PSG se dit très inquiet. Plusieurs joueurs, dont Neymar et Di Maria, pourraient être sanctionnés.
Et un grand bol d'air pour terminer le journal.
De l'air, de l'amour, de l'humour, c'est Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal qui sort aujourd'hui sur les écrans, avec Laure Calamy, la secrétaire amoureuse de la série 10%, qui partage l'affiche avec un âne pour une rando dans les Cévennes, en portrait de femme libre, Eva Bétan.
Il fallait oser en 2020 refaire le triptyque le mari, l'épouse et la maîtresse, fût-ce dans la splendeur des Cévennes. La dite maîtresse, de par son métier maîtresse d'école, est amoureuse d'un parent d'élève et la scène d'ouverture où elle enflamme la fête de l'école sans même en être consciente donne le tempo. Au-delà du vaudeville, ce sera le portrait d'une femme. Son amant lui a fait faux bond pour partir en randonnée dans les Cévennes avec sa famille. Elle décide d'y aller elle aussi. Mais voilà, les randonnées s'y pratiquent avec un âne. De quoi maudire Stevenson qui avait donné l'exemple. Passé l'effet comique facile, arrive le rire qui coince. Parmi les randonneurs dans les refuges, elle est regardée tour à tour avec envie, une amoureuse, avec concupiscence, avec effroi, une potentielle briseuse de couple, avec commisération, la pauvre fille qui approche de la quarantaine. Mais tenir la caméra, c'est pouvoir décider que la gagnante, contre les conformistes au regard éteint, c'est elle qui avance dans la vie, protégée par sa fantaisie, prête à tout et même à aimer.
Antoinette dans les Cévennes avec Laure Calamy.
Et vous allez peut-être aller le voir dès aujourd'hui. Sans doute. Merci Agnès Soubiran.